petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie.
En pleine inflation, crise énergétique, transition écologique et économie de guerre, il n'est pas de bon ton de dire que le capitalisme est en train de se réformer. Et pourtant, derrière le fracas des vagues, de la houle et des tempêtes, des courants profonds et sans bruit démocratisent assez sensiblement le capitalisme. De prime abord, j'observe une parenté entre démocratie et capitalisme. Les pays les plus démocratiques ne sont-ils pas les pays où le capitalisme prospère? Mais je veux dire ici autre chose. Des signaux, plus ou moins faibles, indiquent aujourd'hui une direction vers plus de démocratie. Ces signaux partent de progrès sociétaux. Jacques Maritain, célèbre philosophe chrétien du XXe siècle, se prononce longuement en faveur de la démocratie, mais il pense qu'elle ne réussit pas parce qu'elle néglige trop la justice sociale et la prise en compte de toutes les personnes. Or, au XXIe siècle, les choses progressent doucement dans le bon sens. Certes, ça ne se sent pas encore beaucoup. C'est ainsi que la loi Pacte de mai 2009 change enfin, en profondeur, la nature et la finalité de l'entreprise libérale, de l'entreprise capitaliste. Jusque-là, la loi ne confirmait qu'un seul but de l'entreprise, faire du profit pour les propriétaires ou actionnaires. La loi votée par le Parlement en 2019 écrit désormais ainsi le nouvel article 1833 du Code civil. Je cite « La société, c'est-à-dire l'entreprise, est gérée dans son intérêt social, c'est-à-dire le profit capitaliste. » Et alors là, attention, jamais la loi l'avait fait jusque-là. La loi ajoute, et c'est un virage énorme même si l'expression est encore floue, elle ajoute « en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Le bien commun est un tenant et aboutissant des stratégies d'entreprise. Le patron ne peut plus rétorquer que son entreprise n'est pas faite pour s'occuper de créer de l'emploi ou sauver la diversité de la nature. Il est vrai qu'il manque encore des contrôles et sanctions pour faire appliquer cette loi, mais les tribunaux jugent dès à présent en fonction de cette loi. L'affectio societatis, terme juridique, obligeant les sociétés à s'entendre, s'étend dès lors à toutes les parties prenantes de l'entreprise. Convergence pour le bien commun des fournisseurs, des salariés, des collectivités locales, des banques, etc. Cet article 1833 du Code civil est de fait une mesure contre-libérale, contre-capitaliste. La RSE, responsabilité sociale des entreprises, va certes dans le même sens, mais la RSE n'est pas une obligation légale. Cette instauration d'un cadre légal qui change les buts de l'entreprise déplaît-elle aux entrepreneurs? Au départ, oui, les entrepreneurs étaient plutôt hostiles. Mais il y a en 2022 un volontarisme pour que l'entreprise cherche le bien commun et pas seulement le profit. Cela se constate au sujet d'un autre article, l'article 1835 du Code civil. Cet article permet depuis 2019 à une entreprise d'introduire dans ses statuts une autre raison d'être que le seul profit. On appelle ces nouvelles entreprises des entreprises à mission. C'est ainsi que Danone a volontairement choisi de se donner pour mission le soutien à l'agriculture raisonnée, au cycle vertueux de l'eau et à l'économie circulaire. Danone est pour l'instant la seule société à mission du CAC 40, mais en 18 mois, le nombre d'entreprises volontaires a doublé. Il n'y a pas que la loi qui freine l'ultralibéralisme. Les partenaires sociaux y travaillent. Les syndicats qui avaient agi pour que la loi Pacte aille le plus loin possible dans ce sens, ont été tout aussi actifs pour négocier avec les patronats et signer l'accord national interprofessionnel du 14 avril 2022 sur le dialogue social et le paritarisme. Enfin, seule la CGT ne l'a pas signé. Cet accord instaure en quelque sorte un comité paritaire permanent du dialogue social. Qu'est-ce que ça change ? Ce n'est plus le gouvernement qui décide de ce qu'on va discuter. De plus, les négociations ne s'ouvriront plus trop tard, comme c'est le cas aujourd'hui, dos au mur, sous tension maximale. La politique sociale pourra s'anticiper. D'ailleurs, les postures traditionnelles sont en train de changer le 5 septembre 2022, donc il n'y a pas longtemps, et pour la deuxième fois de cet été, 8 syndicats salariés, dont on ne va pas les citer tous, ce n'est pas la peine, se sont réunis pour discuter, chercher des consensus, acter des dissensions, mais se concerter, c'est l'essentiel, sur les grands sujets d'actualité. Toutes ces avancées plus ou moins timides dénotent une certaine nouveauté. On négocie sur la négociation, sur la façon de négocier. Une sorte de méta-négociation, comme il existe en linguistique un méta-langage, un langage sur le langage. On se concerte sur la concertation. C'est ainsi que les politiques ont compris qu'il fallait changer la fabrication des décisions, tenir compte des ressentis populaires et de l'opinion, l'opinion non pas publique, mais l'opinion des uns et des autres. C'est ainsi que le président de la République s'est investi, plus ou moins efficacement, dans le grand débat et après l'épisode des Gilets jaunes, puis a expérimenté des assemblées de citoyens tirées au sort, ce fut la Convention pour le climat. Aujourd'hui, il propose un Conseil national de la refondation qui aurait l'ambition du Conseil national de la résistance présidé par Jean Moulin et qui a structuré la vie politique, économique, sociale de 1945 à nos jours. Il faut refonder la démocratie et ne plus laisser les mandatés élus décider pour les mandants qui ne se sentent pas consultés. Les mandatés, politiques ou syndicaux d'ailleurs, sentent eux-mêmes que ça ne peut pas durer. Dans cet ancien système, les choses se décident entre des oligarques du capitalisme et certains partenaires sociaux enfermés dans un cercle restreint qui confisque le débat et le pouvoir. Le Conseil national de la refondation est composé des partis politiques, des syndicats patronaux, salariés, agricoles, des associations, des élus territoriaux, des représentants du CESE, peut-être aussi de parlementaires et de citoyens tirés au sort. Certains des membres ont l'habitude de discuter entre eux. Ils ont acquis des codes de l'entre-soi. Mais aucun membre n'a l'habitude de parler avec tous les autres membres du CNR. On peut ainsi démocratiquement casser le système en discutant concrètement des questions chaudes de la santé, l'école, l'écologie, etc. Il y a des invités à ce CNR qui ont déjà refusé de s'y rendre. Je ne crois pas qu'ils aient raison, mais on peut les comprendre. La vie publique baigne dans la méfiance. Et le passé montre qu'il y a de quoi souvent être méfiants. Mais le pape François nous incite à rompre avec ses stratégies de l'échec. Il invite à ce qu'il appelle l'amitié sociale, une confiance volontariste dans Fratelli Tutti, l'encyclique de 2020. Le capitalisme a transformé les relations et les actions en parties de poker, instauré de façon insistante un climat de confiance, changer la mode sont le meilleur moyen de déjouer ce qu'il y a de bloquant, de clivant dans la culture capitaliste. Mais le CNR, non élu par le peuple, n'a pas de légitimité pour légiférer. Ses conclusions seront à transmettre au Parlement et au gouvernement, et peut-être pour référendum. Ces questions, mesures très récentes, ne suffisent pas à équilibrer le capitalisme et on peut envisager sérieusement de ne pas laisser le top manager d'une entreprise à la seule merci de ses actionnaires.
C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.